Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre, merci d'être venus aussi nombreux. Alors Juan Díaz-Canales et Juan Roguarnido, merci d'être parmi nous ce soir. C'est avec un immense plaisir qu'on vous accueille pour la parution du dernier volume de la série Black Sad. Alors pour rappel, voilà, rapide, même si je pense que grand nombre d'entre vous sont au courant, Black Sad, c'est une série de bande dessinée dont le premier volume qui s'intitule Quelque part entre les ombres est paru il y a déjà 23 ans aux éditions d'Argo. La série, elle est très inspirée par les polars noirs et hardboiled qui ont connu un âge d'or entre les années 20 et les années 50, et où les personnages, du coup, dans Black Sad, sont des animaux par le biais d'un processus de zoomorphisme, et non pas de zoomorphisme tout court, excusez-moi. Il y a déjà 2,4 millions d'albums qui ont été vendus de par le monde sur la totalité de la série, sans compter le dernier volume. Mais dire ça, ça serait quand même réduire l'importance en fait, qu'a la série aujourd'hui dans le paysage du 9e art, en fait, de la bande dessinée. Alors pour la petite info, Black Sad, ça existe donc en bande dessinée, mais il y a aussi de nombreux hors-séries, comme des making-of, un qui s'appelle Les Dessous de l'Enquête, qui était consacré au premier volume. Il y a eu des numéros qui s'appellent Histoire des aquarelles, sur l'histoire des dessins, sur les recherches graphiques. Il y a eu des artbooks, une fiction audio qui existe également, un jeu de rôle sur table, et aussi un jeu vidéo qui s'appelle Under the Skin, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Alors Juan Canales, vous êtes scénariste et c'est durant vos années passées dans l'animation que vous avez fait la rencontre de Juan Roguarnido, mais ça on verra un peu plus tard. Et depuis lors, vous avez scénarisé de nombreux travaux comme la série Gentle Mind, plus récemment Judy Steele, mais aussi les suites de Corto Maltese. Juan Roguarnido, vous êtes illustrateur et coloriste sur Black Sad, et en général aussi. Tout comme votre compère, vous avez fait vos armes dans le cinéma d'animation, notamment chez Disney. Vous avez travaillé sur des métrages comme Hercule, Tarzan ou encore Atlantide, pour ne citer que. Et dernièrement, vous avez travaillé avec Alain Hérol sur Les Infourbes. Vous étiez au dessin aussi. Et en ce mois de novembre 2023, il y a le dernier volume de Black Sad, Alors tout tombe partie 2, qui est sorti aux éditions d'Argo. Donc après cette brève introduction, je vais vous demander, du coup, Juan Canales et Juan Roguarnido, est-ce que vous pourriez nous raconter en fait votre rencontre et ce qui a fait en fait que la saga Black Sad est née en fait.
Voilà, c'est parti.
Allez, je te laisse la parole en premier. Après, j'enchaîne.
Et bonsoir tout le monde. Et effectivement, c'est disons que on s'est rencontrés dans un studio d'animation à Madrid. Ça fait très longtemps. Et en fait, c'était l'année 90. Donc, ça fait un mal, ouais. Et là, ça a été notre tout premier métier professionnel, celle de l'animation. On est devenu des amis. On partageait déjà à cette époque-là notre passion pour la BD. Donc, à fur et à mesure qu'on a continué dans les métiers de l'animation, on s'est dit, bon, nous voulons faire quelque chose dans la BD. Et nous avons des différents projets, un peu pas très définis. Et finalement, à peu près dans l'année 1995 ou quelque chose comme ça, on s'est décidé pour essayer de développer un projet de BD, d'une série BD avec l'univers de Black Sad. Et voilà, on a profité que Juanjo, à cette époque-là, était déjà à Paris parce qu'il a été engagé par le studio Disney de Montreuil. Et voilà, c'est de cette façon un peu inouïe, parce qu'à cette époque, on ne connaissait pas du tout le marché de la BD franco-belge. On a décidé d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne, cette histoire, cette espèce d'histoire d'un chat privé.
Merci.
Tout à fait.
Non, il faut dire que le personnage avait déjà été créé par Juan, il réchigne à le dire par modestie, mais au moment où j'ai emménagé en France, à Paris, il venait d'inventer ce personnage, de le créer, de faire des histoires courtes en noir et blanc, inspirées du Alaxinaire de Muñoz de Sampaio, mais en animalier, ce qui était assez frappant, et quand il me les a montrés, j'ai été immédiatement jaloux ben, il a trouvé le personnage de mes rêves. Pourquoi c'est pas moi qui l'ai inventé ce perso? C'est vraiment c'était exactement le truc que j'aurais aimé dessiner à ma façon. Et voilà. Et après, quand notre idée de faire une BD ensemble s'est concrétisée, qu'il a commencé à me convaincre pour vraiment aborder quelque chose d'aussi ambitieux pour tous les deux à l'époque, où on bossait dans le dessin animé à plein temps. Voilà, j'ai eu l'idée de le corrompre pour qu'il me cède à son personnage, et j'ai réussi. Et voilà, et aujourd'hui, on en est là. Mais 7e tome après 23 ans, c'est pas beaucoup, mais bon.
Mais si je cache les petites dates de la création de Black Sat, c'est pas pour modestie, c'est plutôt pour cacher un peu l'origine, parce que je suis pas très fier de cette petite histoire courte en noir et blanc qui parlait.
Ah, pourtant, c'est des travaux de jeunesse,
très jeunesse.
Mais aujourd'hui, votre série est très bien installée. C'est vraiment une très très bonne série. Donc félicitations à vous deux. Mais du coup, c'était il y a longtemps, vous dites dans les années 90 que ça a vraiment commencé un peu à émerger, cette idée de John Blacksad. Est-ce que aujourd'hui, voilà, avec le recul nécessaire, vous vous disiez quand le premier volume est sorti en 2000, ça va marcher, c'est sûr, on va avoir des lecteurs, la série ira loin, on va avoir une renommée comme ça autour de la série.
Moi, j'ai toujours dit que on avait mis tant de travail, tant d'efforts et tant d'amour dans cet album, parce que vraiment c'était un investissement personnel profond, viscéral, qu'on se disait, enfin on espérait au moins, et d'une façon un peu superstitieuse, je me disais c'est pas possible que ça tombe dans l'oubli absolu, que ça fasse un flop horrible et que ça vende rien et que ça tient rien à ça. Bon, ça, il faut que ça marche. Enfin, je me disais que ça marche, mais que ça marche, pour moi, à l'époque, c'était rien. Enfin, c'était pas un dixième, c'était pas un centième de ce que c'est devenu très, très vite. Ça a dépassé nos rêves les plus fous, immédiatement, en plus. Dès la sortie, à peine une semaine après la sortie, en librairie, l'éditeur a réimprimé déjà, parce qu'il savait qu'ils allaient être en rupture pour Angoulême s'ils ne le faisaient pas. C'était un succès phénoménal tout de suite. Et puis c'est allé en grandissant. Disons que le premier, au moment de la sortie du deuxième, avait déjà fait 50 000 exemplaires, ce qui est énorme quand même. Aujourd'hui, ça fait beaucoup plus, mais je me souviens, Joëlle Rémy, fabuleuse responsable de Fab de Dargaud, venait me chercher près à la porte de Montreuil en voiture pour aller chez l'imprimeur quand on faisait le calage des planches. Donc le studio était à Montreuil, donc je courais jusqu'à la porte de Montreuil et me récupérer. Et je me souviens, cette fois, je monte dans sa Fiat Panda et pendant que je mets ma ceinture, elle démarre. Elle me dit, tu sais qu'on imprime à 80 000, hein? Et moi, j'ai eu un coup de chaleur, mais vraiment, j'ai senti la température monter dans mon corps et j'ai failli avoir un malaise. Oh mon Dieu, 80 000 ? Ah oui, d'emblée, 80 000. Voilà, c'était formidable. Tout de suite, ça, voilà, c'était une montée fulgurante. Et chaque épisode, ça a été la même chose.
Tout pareil.
Oui, non, c'est ce que je disais avant, c'est autant que nous avons décidé de commencer cette belle aventure de Black Sad, on ne connaissait pas trop le marché de la BD. On venait de l'Espagne tous les deux. Et c'est vrai qu'à fur et à mesure qu'on a côtoyer des copains, des autres auteurs, on a réussi à comprendre un petit peu, mais à cette époque-là, on connaissait pas presque rien. Donc tout ça qui s'est passé d'après la sortie de Black Sad, c'était une belle surprise pour nous. Même si effectivement, on était hyper fiers du travail, ça nous a pris beaucoup de temps, notamment à Juanjo, de finir l'album. Ça a été fait pendant des week-ends, des vacances, parce que compatibiliser ça avec le travail de dessin animé, c'est compliqué, parce que c'était très prenant. Mais, Mais bref, ça a été complètement inattendu, les succès pour nous. Et je pense que pour le reste des lecteurs aussi, parce qu'on sortait de nulle part. C'était notre premier album. C'est notre première expérience dans la BD. Donc voilà, c'était complètement inattendu.
Et quelle expérience. Mais il faut le dire aussi, le succès du coup, de la série, c'est pas uniquement parce que c'est un polar avec un gros chat noir dedans qui enquête. Il y a aussi un savant mélange en fait qui est opéré dedans entre la thématique du polar. Donc du coup, à chaque fois, il y a une enquête différente. Chaque album peut quasiment en fait se suffire à lui-même. En soit, n'importe quel lecteur pour entrer dans le 2, dans le 4, comme ça. Mais c'est aussi mélangé avec beaucoup de thématiques sociales qui sont propres à chaque album, comme par exemple dans Arctic Nation, le deuxième volume, il est question du racisme, dans le 3, c'est question du maccartisme et de la chasse aux sorcières. Et comment est-ce qu'en fait elle vous est venue cette idée, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'à chaque fois, dans chaque volume, d'intégrer une thématique sociale propre pour du coup la lier à l'intrigue en fait policière de l'album?
On s'était notamment un parc pris qui a on dit très souvent que c'est lié à une caractéristique très présente dans l'univers de Black Sad, cette espèce de réalisme. Je veux dire que même si c'est un univers animalier, on a voulu depuis le début de donner une ambiance plutôt réalistique, et pas seulement au niveau graphique, ça c'est de toute évidence, même si le casting c'est animalier, toutes les ambiances sont reconnaissables. C'est une période historique très précise, les années 50, les États-Unis, voilà. Et en même temps, on a voulu raconter des histoires qui s'est passées à cette époque-là, pour donner un aspect social et politique, si vous voulez, que c'est très lié en général au polar. Donc voilà, c'est un espèce de mélange de différents éléments qui nous a mené à cette formule, si on peut dire ça, qui marche très bien, parce que d'un côté il y a cet côté de fable qui apporte une espèce de grammaire métaphorique avec l'utilisation des animaux, et d'un autre côté il y a cet aspect vraiment réaliste, parce qu'on parle d'une période historique précise, mais qui en plus c'est une période historique qui nous parle encore. Donc voilà.
Merci. Mais en plus du coup de cette période historique, en fait, il y a un travail de recherche qui est vraiment assez fou quand même aussi au niveau graphique, parce que les bâtiments, les voitures, les costumes, les vêtements des personnages, et aussi au milieu de tout ça, du coup, de cette recherche, il y a aussi la culture en fait qui est très importante dedans, parce qu'il y a beaucoup, il y a la récurrence de la musique, beaucoup de chanteurs ou John écoute souvent la radio, la littérature, ça c'était notamment dans le 5, mais l'architecture, parce que du coup c'est un peu aussi l'enjeu du 6e et du 7e volume, mais voilà, au niveau de la recherche graphique aussi, il y a... Donc en fait, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que Juan, vous faites des recherches et vous les transmettez du coup à Juan Roux, ou est-ce que vous ciblez seulement par exemple rue New York, plan large, et c'est vous qui faites les recherches? Comment est-ce que du coup vous procédez pour les recherches comme ça?
Disons que Juan, en plus du scénario, il me fournit un premier dossier graphique avec des images, un peu les images clés qui ont servi d'inspiration pour l'album et pour le déroulement de l'histoire. Et après, à partir de là, je reprends ma recherche. Déjà, j'ai un banc d'images infini, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de photos j'ai, et des dizaines de bouquins de photos d'époque. Je me base sur tout ce que je trouve comme référence de ces années-là. Au début, c'était beaucoup des films. C'était parfois même, j'ai eu recours à un appareil que j'utilisais sans trop avoir la permission, c'est vrai, je dois le reconnaître, mais j'étais un appareil qu'on avait pour imprimer des images de vidéos. On mettait la vidéo en pause et on pouvait imprimer l'image un peu à la façon d'un fax. Et je dois les avoir gardés, mais les fax, ça se dégrade. Ce procédé est très fragile. Donc, du coup, de ces images, il ne doit pas rester grand-chose. Mais à l'époque, voilà, il me fallait ça parce que soit je dessinais comme j'ai fait, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs, dessiner devant l'écran d'une vidéo, d'un VHS en pause, d'un film d'un Humphrey Bogart ou autre. Ou avoir recours à ça, ou chercher des livres de photos d'époque, de photos, mais pas. Il y en a plein de très intéressants parce qu'en plus de l'architecture, il y a beaucoup de photos de la population, des gens dans les rues. Il y a notamment un qui est magnifique, qui est celui de William Klein, qui s'appelle New York 53-54, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est, voilà, sur deux années, des photos de rue, des gens. Vous voyez le melting pot, comme le photographe lui-même, il le dit. C'est plein de situations, plein de types humains, les attitudes, la mode, les façons de s'habiller, les races. C'est très... Tout ça est très, très formateur. Mais c'était limité tant que la référence devait toujours être des livres publiés et on n'avait pas accès à des photos, sauf dans des magazines ou proprement des livres. Et au moment de l'explosion d'Internet, ben, ça a été incroyable parce que vous trouvez des photos quasiment... Ben, voilà, il y a un film qui vous inspire ou l'ambiance est un peu similaire. Voilà, vous allez sur Internet et vous trouvez plein de photos déjà des situations qui vous conviennent avec, que sais-je, tout ce que je cherchais auparavant, sauf que maintenant plus détaillé, que ce soit des images de films ou des images de vieilles voitures restaurées ou d'époque, de la mode de l'époque, de reportages de mode, de magazines de mode, tout. Vraiment tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Et c'est pas la moindre des choses, énormément de photos d'animaux aussi. Parce que moi, j'ai passé mon enfance à potasser des livres d'animaux parce que j'adorais les bestioles. Je regardais les reportages qui passaient à la télé à chaque fois qu'il y avait un reportage d'un animal. Il y avait d'ailleurs, on avait notre propre Jacques Cousteau à nous. C'était le professeur Rodríguez de la Fuente qui était un peu un mythe pour tous les enfants d'Espagne parce que lui, il faisait des reportages sur la faune ibérique, comme il disait, c'était très intéressant. C'était un aventurier. Il est mort comme un aventurier dans un accident d'hélicoptère en Alaska, en poursuivant, en filmant un truc. C'était un drame national, évidemment. Et puis voilà, c'était le rendez-vous de son émission. Vendredi soir, c'était plus important pour mon frangin et moi. On attendait ça comme le Messie. C'était plus important que les dessins animés ou que, je veux dire, Goldorak. C'était pas Goldorak chez nous, c'était Mazinger. C'était le samedi midi, mais nous, c'était encore vendredi soir. C'était encore plus important parce qu'on allait voir les renards, les loups en chasse, les aigles. C'était formidable. Et à partir de là, j'ai toujours développé beaucoup d'intérêt pour les animaux et voilà, j'en garde beaucoup en tête, mais bon, l'information maintenant graphique, photographique que vous avez sur Internet, c'est la caverne d'Ali Baba, c'est un trésor infini et inépuisable.
On sent vraiment une grande passion chez les animaux, du coup.
Oui.
Et puis tu habites pas loin des jardins des plantes.
Oui, mais je suis pas allé à la. Ça fait longtemps. La dernière fois que je suis allé à la ménagerie, ça fait très 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 longtemps. Je vois, c'est un peu triste parce que les cages des animaux sont un peu exiguës et ça fait de la peine. Par contre, récemment au bois de Vincennes, j'ai fait des découvertes magnifiques. Ils ont un fourmilier. Et le fourmilier, c'est, vous le voyez dans des photos, vous disiez c'est un animal maladroit qui doit marcher lentement. Mais non, ça bouge comme un chien, quoi. Ça, c'est vivant, c'est vivace. Et ça, vous voyez la trompe qu'il a. Il a des petits yeux. Les petits yeux sont hyper expressifs. Et quand il vous regarde, vous dites mais il est vachement intelligent cet animal. C'est pas voilà. Alors que de loin, tu te dis c'est un animal qui bouge comme le paresseux. Il doit bouger très paresseusement. Et pas du tout le cas. Non, ils ont des beaux spécimens au bois de Vincennes en ce moment.
Et du coup, en fait, est-ce que cette découverte, parce que ce qui est important aussi dans la BD, c'est les personnages, bien sûr. Mais est-ce que tous les personnages qui sont dedans, donc Smirnov, c'est un berger allemand, est-ce que c'est vous, Juan, qui dites à Juan Ro, tel personnage, c'est tel animal ? Ou est-ce que, vu que votre collègue est quand même un fan vraiment très très expressive des animaux, vous soumet de temps en temps en disant bah non, là, Smirnoff, ça sera une belette par exemple.
Non, disons que les castings animaux viennent déjà dans les scénarios, forcément, parce que comme tu as rendu que les choix de l'animal apportent déjà en psychologie au personnage, on peut imaginer que c'est important d'avoir ça en tête depuis les premiers moments que tu es en train de réfléchir sur les récits. Donc, effectivement, tous les castings s'est déjà fait sur les scénarios, mais ça n'empêche pas qu'après, on échange beaucoup. C'est notre façon de travailler ensemble depuis qu'on se connaît. Et voilà, grâce surtout à cette sa passion pour les animaux et l'énorme information qu'il garde en sa tête depuis que Juanjo était enfant, il lui apporte beaucoup des idées, et si jamais il y a des autres possibilités d'échanger d'animal, il va me dire et on va échanger, et finalement ça nous est arrivé pas mal de fois de trouver une autre espèce animale ou pour des différentes raisons, pour des raisons psychologiques, comme j'ai dit, ou même pour des raisons graphiques qui au moment de l'écriture sont pas évidentes.
Pour rebondir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, Juanro, par rapport à la recherche graphique, vous parliez un peu de cinéma, et en fait, quand on lit un album de Black Sad, on ferme l'album et on a l'impression d'avoir vu un film, hein, vraiment, des fois, c'est assez bluffant. Mais pas tant au niveau de l'histoire, qui est déjà du coup très cinématographique, mais aussi au niveau des cadrages, en fait, du dessin, du découpage, même de certaines actions, qui est très lent, qui nous fait penser à un mouvement, en fait, vraiment comme avec les flipbooks, en fait, qu'on utilise. Et vous disiez que vous regardez beaucoup de films, mais est-ce qu'aussi bien scénaristiquement parlant que graphiquement, en fait, c'est quoi vos influences vraiment ultimes en tant que film? Alors oui, bien sûr, vous dites Humphrey Bogart par rapport au film du coup des années 50-60, mais il y a aussi, en fait, si on cherche bien dans certains découpages de scènes, il y a aussi des références qui sont un peu plus récentes. Par exemple, pour en citer qu'une, c'est dans le volume 1, quand John se débarrasse de l'assassin qui est chez lui, quand il fait la roulade pour récupérer son arme à feu, il y a un côté un peu Bruce Willis, en fait, dans Die Hard, en fait, quand il récupère son pistolet.
Donc, vous êtes fin. C'est exactement ma référence.
Eh ben super.
Exactement ma référence.
D'accord.
Et à l'époque, j'ai regardé Die Hard, j'ai pris plein de croquis. Ça, peu de gens le savent. Là, c'est marrant parce que on n'a jamais percuté sur ça. J'ai le premier Die Hard dans le magnétoscope. C'était en VHS, c'était chez Disney. Et voilà, c'était chez Disney. Je faisais des heures sup pour Black Sabbath. Je faisais mon boulot. Et après, voilà, je restais un peu pour utiliser un peu les moyens. Et j'ai pris des croquis en mettant la pause, voilà, pour la façon de prendre le pistolet de Bruce Willis à deux points, comme il le faisait. Et voilà, j'ai examiné plein de passages de ce film. Je les ai étudiés, je les ai dessinés, croqués. Et non, mais c'est marrant. C'était vraiment la référence. Disons que on se basait. Alors, on partait sur une idée de faire un film plus d'une façon classique, d'une façon avec une narrative cinématographique, mais classique. Et classique, c'est-à-dire de l'époque dorée du cinéma noir, ce que vous venez de dire parfaitement, des années 20 aux années 50. Je crois que c'est l'ennemi public, c'est le 22, avec James Caan, c'est le 29, et l'anatomie d'un meurtre qui clôt un peu l'époque d'or, c'est 59. Donc c'est, voilà, c'est toute cette époque magnifique. Il y a quand même un code de censure, on va dire, cinématographique, mais plus qu'un code de... C'est une censure, parce que c'est le goût du public, pour le rendre accessible aux... pas aux enfants, mais aux plus jeunes. Enfin, c'était, disons que ça, c'était une énorme contrainte pour les artistes, mais quand même, ça faisait en sorte qu'il y avait une élégance de la narration, et le récit restait tout aussi violent, tout aussi dur. Il y avait des problèmes, je veux dire, des sujets qui passaient un peu de façon un peu codée, quand on parlait de prostitution ou d'autres choses comme ça. comme ça, un peu scabreuse, on allait s'y référer par, voilà, un peu métaphoriquement, un peu indirectement. Mais voilà, tout ça donnait quelque chose d'assez retenu. Une façon de retenir l'action, la violence, le sang, toutes les choses qui étaient, voilà, qui étaient inadmissibles à l'écran à l'époque. Nous, le faisant dans les années 2000, 1990 même, voilà, on pouvait pas rester dans des codes trop à l'ancienne, parce que le public de BD, qui est souvent le même public du cinéma, est habitué à notre langage, et on pouvait pas faire quelque chose de trop vieillot. Mais c'est qu'en plus, cette esthétique, qu'après, l'esthétique des films d'action, des grands films d'action, justement, Piège de cristal et autres, tu te dis, ça vaut la peine. C'est tellement visuel, ça a tellement d'appeal, c'est tellement appeal, et même sex appeal, c'est sexy dans un sens. C'est, voilà, ça communique tellement d'action que vraiment pour moi c'était important que voilà, qu'on ne soit pas trop rigoureux à ce niveau-là. S'il faut montrer du sang, s'il faut montrer des éclaboussures de sang au ralenti, avoir l'impression que c'est au ralenti, vraiment dans un truc vraiment tarantinesque, où vraiment Tarantino va un peu loin, parce que là, on dirait qu'il se fait plaisir à ce qu'il se réjouit dans la violence et explicite, dans le côté gore, mais voilà, de donner quelque chose de très dynamique, de très vivant et de moderne dans le sens années 90, et exactement avec la référence de Bruce Willis, qui était très 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 bien trouvé. Ben voilà, moi je me suis dit que ça valait la peine, que c'était le registre dans lequel on voulait travailler.
Et voilà, il y a un truc très séduisant dans l'action, mais aussi, comme j'ai dit, en fait, dans le découpage et même en fait dans la création des cases. Alors du coup, là, c'est plus une question en fait pour le scénariste, donc du coup pour vous, Juan, parce que par exemple, le volume 2 s'ouvre sur une espèce de travelling en fait en plongée. Est-ce que vous écrivez un peu ça comme un scénario du coup de long métrage en fait, en disant là point sur ou est-ce que vraiment c'est il faut un plan sur une rue et vous dites à Juan Ro, bah voilà, tu fais un dessin sur une rue et puis voilà, comment est-ce que vous composez vraiment le scénario? Est-ce que vraiment, parce que Juan Ro vient de dire que du coup au niveau de l'action, voilà, il s'est en voyant Piège de cristal qui s'est dit là, faut un truc comme ça. Donc du coup, il y a un peu de l'improvisation en fait quelque part aussi dans le dessin. Mais est-ce qu'au niveau voilà du découpage des planches, de la composition des planches, comment est-ce que vous procédez pour l'écriture?
C'est hyper facile pour moi parce que je le laisse tout à Juan Ro. Non, je rigole. En fait, c'est vrai qu'il y a d'abord un grand, je sais pas si le mot c'est inspiration, mais en tout cas une grande influence dans notre travail de l'animation, parce que on a appris les métiers dans notre parcours dans les dessins animés. Et alors, une fois que on s'est dit de commencer à faire la BD. Et d'une façon naturelle, moi, j'ai commencé à écrire les scénarios de la même façon que les scénarios avec lesquels j'ai travaillé pendant des années. Les formats des scénarios de Black Sabbath sont des scénarios de cinéma. Donc voilà, ça apporte déjà une façon de faire qui, à mon avis, laisse beaucoup de liberté à Juanjo, qui est en charge de faire les découpages, finalement, pour imaginer des différentes situations, comme celle que tu dis, qu'à un moment donné, on peut retrouver des parallélismes avec le cinéma, soit des mouvements de caméra, soit la façon de découper l'action. Voilà, il y a mille occasions pour faire une espèce de traduction, on peut dire, de cet langage cinématographique à la BD. Et je pense qu'effectivement, ça vient un peu aussi de la façon où nous faisons face au travail, d'une façon très, très près de ce qu'on avait fait déjà dans les animés, et notamment dans les processus de faire des storyboards. Donc voilà, on partage quelque part cette langue du cinéma. Mais en même temps, on se dit très souvent aussi, et Juanjo l'explique très bien, que les langues de la BD, le langage, c'est complètement différent de notre côté. Et c'est notamment évident dans la façon de raconter, de développer l'action. L'action d'un dessin animé, par exemple, tu dois le découper en petit mouvement de qui se passe dans un seconde. Tu as besoin de 24 dessins. Voilà. Et par contre, dans le dessin animé, dans la BD, tu as besoin de beaucoup moins d'action et de dessin, et tu peux raconter ça avec disons que le lecteur doit imaginer ce qui se passe entre un cas et l'autre, l'ellipse. L'ellipse narrative. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de parallélisme, mais en même temps, c'est un langage complètement différent.
Oui, parce que les éléments sont différents. Le débit de la narration au cinéma, vous êtes imposé, et à la BD, c'est vous-même qui le gérez. Finalement, c'est voilà, il y a une histoire, il y a une histoire qui est racontée avec des images, mais la ressemblance s'arrête là. Et c'est très, par rapport à ce que disait Juan, il parlait de traduction, je disais transposition, quand on parle de travelling en BD, où on utilise des termes, on dit on fait un zoom, on fait, c'est très, c'est un peu métaphorique, c'est pas un vrai travelling, il n'y a pas un vrai mouvement, disons que ce qu'on fait, c'est transposer ou essayer de transposer avec les moyens du langage de la BD, des choses qui sont familières aux spectateurs de cinéma que nous sommes tous.
C'était très intéressant.
Oui, parce que en plus j'étais très à cheval sur le truc. Ouais, la narration cinématographique, c'est hyper important et machin. Et moi, j'étudie ceci et cela. Et finalement, c'est des bêtises parce que c'est pas ça qui est important. Je pense à un moment donné, en commençant Black Sad, j'étais très obsédé par ça et je le théorisais beaucoup. Et finalement, je me suis rendu compte que voilà, qu'effectivement, que la matière première est tellement différente qu'on peut pas qu'on peut pas vraiment parler de langage cinématographique dans la BD, mais bon, on le fait, c'est un raccourci de langage qu'on fait quand on dit ça.
Alors bon, pour finir sur le cinéma, mais pour ouvrir sur du coup le Alors Touton qui vient de se clore en fait. Bon, déjà le volume 6 se termine sur un cliffhanger, donc bon, qu'on voit parfois en BD, mais qui fait très cinématographique avec beaucoup de films aujourd'hui qui sont en deux parties. Donc là, ce qui est le cas avec le Black Sad numéro 6 et 7. Et alors, en le lisant et les relisant, j'ai remarqué qu'il y a un gros, gros parallèle historique qui est fait avec l'histoire de New York dans les années 50, donc notamment avec le maire et Solomon, donc les deux antagonistes en fait principaux, mais aussi donc dans la réalité avec le maire de New York, Robert Moses, qui a fait certaines choses que les personnages font dans la BD. Alors là, du coup, c'est d'autant plus marquant. Alors pourquoi est-ce que vous avez vraiment voulu explorer quelque chose mais qui se rapproche de plus en plus de la réalité, en fait, déjà au niveau des noms, des parallélismes, mais même au niveau de la mafia, des syndicats, etc. Qu'est-ce qui a motivé vraiment de faire un diptyque, en fait, de faire une aussi grosse histoire pour le retour de Black Sad, mais aussi, qu'est-ce qui a motivé, c'est vraiment cette envie d'explorer un côté historique assez fort de la ville de New York.
Bon, l'effet du format de diptyque, ça vient de notre envie de raconter une histoire un peu plus complexe, pas que plus complexe, d'avoir vraiment de l'espace pour développer une histoire qui nous donne l'opportunité, par exemple, de raconter des différentes trames, de donner des protagonismes à des personnages comme Weekly, par exemple, qui jusqu'à cet édiptique avait un rôle plutôt pas anecdotique mais plutôt
le sidekick,
ouais, j'aime pas
le mot
pas le mot de sidekick.
Mais c'est le mot qu'on comprend.
Et pareil avec l'histoire d'amour de John et de Alma. Finalement, on a pu développer un peu plus que d'habitude cette histoire qui en tient beaucoup. Et puis finalement, comme les partis pris aussi de cette diptyque, c'était de certains retours aux racines de la série. C'est une histoire plus urbaine. Et ça nous a permis aussi de voir Black Sad dans son vrai métier de privé de la grande ville de New York. Et ça nous a permis aussi de voir Black Sad en train de mener une enquête dans son propre bureau et de développer en plus la relation avec Smirnoff, par exemple. Voilà, il y avait plein de choses que le fait de raconter l'histoire dans une bonne centaine de plans nous a permis. Et puis, le sujet de cette espèce de trame urbanistique avec les maires et tous les bas-fonds, la mafia et tout ça, ça nous donne un panorama, un point de vue très précis de cette époque de New York d'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un New York qui a vécu une splendeur incroyable au niveau économique, au niveau de la culture, mais qui était en train de se transformer aussi. C'était un peu le sujet principal et les propos de Robert Moses, qui on a pris effectivement des références. C'était cette transformation de New York pour favoriser les autoroutes qui arrivent même au centre-ville et pour créer un ville qui s'est autour de la voiture. Et qui finalement a réussi. Donc, quelque part, il y a beaucoup de apportations de Robert Moses, et reste pas seulement en New York, mais dans le reste des grandes villes de tout le monde.
Et vous venez en plus de dire qu'en plus du coup du côté historique, il y a aussi une mutation en fait quelque part de la culture aussi dedans. Et un des points du coup principaux du diptyque, c'est la question du théâtre en fait, parce que ça commence sur une représentation de théâtre. La sixième partie se termine sur une représentation de théâtre. Et sans spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu, la fin du volume 7, il y a une espèce de révélation très théâtrale en fait autour d'un personnage. Il y a aussi un lien historique parce que du coup aussi Robert Moses avait du coup refusé des représentations publiques de théâtre à Central Park. Alors est-ce que c'est vraiment purement parce que vous avez voulu du coup années 50 et vu qu'il y avait le théâtre qui avait quand même une place prépondérante dans ces années-là, ou est-ce que vous deux ou un de vous deux a quand même une affection particulière pour le théâtre et pour la dramaturgie?
Plutôt que au théâtre, je pense qu'on a une affection sur Shakespeare. Dans ce cas concret, ça nous apporte ce côté classique de Shakespeare, et c'est très cher pour nous. Classique dans le sens de qu'il nous a donné beaucoup de pistes sur comment écrire des bonnes histoires qui parlent de l'âme humaine. Alors, c'est une référence absolue pour nous. Et puis, l'aspect culturel de Black Sad en général, dans ce cas concret, c'est le théâtre, mais dans d'autres albums, a été la musique jazz, blues, ou la génération beat des écrivains, le nouveau journalisme, par exemple. Il y a plein de références culturelles qui apportent d'abord cet aspect pas négligeable dans cette époque. Et puis, ça apporte aussi un truc que Juanjo dit très souvent, que c'est intéressant, qui c'est que la culture, c'est la seule chose qui s'est... seulement humaine. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'exprimes par rapport. Et ça aide beaucoup à donner un aspect humain aux animaux.
Tout à fait. C'est exactement ça. Le contexte historique, toutes ces références culturelles aident à rendre plus crédible d'une certaine façon un univers qui est totalement fantastique puisqu'il est imaginaire et où les animaux représentent les humains. C'est pas entendu littéralement comme un monde mutant où les animaux auraient pris le contrôle de la planète. C'est un reflet des êtres humains, c'est une caricature, un miroir déformant de foire. C'est ce que c'est, parce que on parle pas d'animaux dans Black Sabbath, on parle de l'humain. Et du coup, particulièrement le fait culturel aide à rendre ce monde imaginaire encore plus crédible. C'est quelque chose qui aide à accepter, qui aide inconsciemment le lecteur à accepter plus rapidement que vraiment ces personnages ne sont pas des monstres, finalement, mais ce sont des êtres humains, juste traités d'une façon caricaturale et profitant de toute la panoplie de critères qui font qu'on les choisit pour chaque rôle, parce que ça peut être, comme disait Juan tout à l'heure, la psychologie de l'animal ou la psychologie qu'on attribue à un personnage représenté par tel animal, son rôle dans les fables, son rôle dans la Bible, dans la littérature classique, dans certains romans très connus, dans la culture pop, dans l'affection des humains pour certains animaux, les animaux de la ferme, les animaux domestiques qui sont connus par rapport à des animaux sauvages. Donc il y a plein de raisons, mais à chaque fois, il y a une raison. À chaque fois, il y a une raison. Elles sont multiples, mais voilà, c'est jamais banal l'utilisation, enfin pour des personnages figurants qui sont derrière Black Sabbath dans une foule, il n'y a pas de raison particulière, mais pour tout personnage qui a un rôle dans le récit, il y a une raison.
Alors, en parlant de raisons comme ça, de choses très réfléchies, il y a, alors je me suis fait une réflexion aussi, sur le titre du diptyque qui s'appelle Alors tout tombe, à chaque fois le titre a une importance en fait dans le récit. Âme rouge, parce que c'était le nom du tableau et derrière lequel il y a la révélation, en fait, une des révélations de l'ouvrage. Et dans Alors tout tombe, à la fin, il y a plusieurs choses, donc du coup, notamment la révélation théâtrale, mais aussi quelque chose lié à Solomon. Et en fait, quelque part, à la fin de l'album, alors là, c'est une interprétation, mais du coup, après, libre à vous de nous dire. Moi, j'y vois un peu comme un happy end, en fait, à la fin, avec la retrouvaille de deux personnages, encore une fois, sans spoiler. Une révélation qui est faite, l'ennemi a été défait, en fait, tout simplement. Et il y a un peu un côté, alors je trouve, aussi dans les albums de Black Sabbath en général, et encore plus dans celui-ci, un côté un peu James Bond, en fait, parce que c'est vraiment des aventures à part entière, avec le même personnage. Il commence sur quelque chose comme les pré-génériques, en fait, des différents films. Et voilà, en fait, c'est un personnage qui est, on pourrait croire, virtuellement immortel, en fait, John, parce qu'il est très souvent dans des situations qui ne sont pas à son avantage, mais il s'en sort toujours.
Il n'est pas immortel, mais il a plusieurs vies.
Voilà, c'est ça, Emile Lottier.
Selon les différentes cultures, 7, 9, il y a une digression sur ça.
Est-ce que vous allez jouer sur un côté fantastique un jour comme ça? Ça a déjà été fait dans le 4, quelque part.
Oui, mais justement, on ne va pas sauver la mise du détective à chaque fois par l'ange gardien qui apparaît, qui sort nulle part, comme nous, et qui, du coup, résout l'histoire. Non, ça, c'est pas... Il y a des gens qui aiment beaucoup ce personnage, mais on l'a répété plusieurs fois. Ce n'est pas un personnage qui a vocation à revenir, parce que c'est un personnage qui apparaît de façon mystérieuse au milieu d'une histoire, dans une ville assez mystérieuse, assez étrange, où Black Sabbath justement joue en montrant vraiment son côté le plus sceptique, et du coup il se retrouve devant quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. C'est tout.
Et pour donner encore plus envie aux gens de lire, du coup à la fin d'Alors tout tombe, on pourrait croire un peu que c'est la fin, en fait. Moi j'y vois un peu une fin, en fait ça pourrait se clore comme ça, l'histoire de John globale. Est-ce que ça veut dire que Black Sabbath, il est un jour prochain, en fait, proche ou lointain, à ne plus exister, en fait, simplement?
Ça y est, vous êtes fatigué de Black Sabbath?
Ah, pas du tout. Non, j'en veux encore
plus. Vous
n'en
voulez plus si. C'est bon. Nous-mêmes, on n'a pas tout compris sur Black Sabbath. Évidemment, on le découvre avec plaisir à chaque fois. Moi, pour moi, c'est un régal. Vous n'imaginez pas ce que ça me fait en tant que premier lecteur des scénarios, de lire le scénar et de le voir déjà à moitié dessiné dans ma tête. C'est jouissif. C'est comme ça que je me rends compte d'à quel point ça peut être jouissif pour des personnes, des lecteurs attachés aux personnages, aux héros de BD, de découvrir une nouvelle aventure et d'accompagner le personnage dans l'histoire, parce que notre attachement au personnage, bon, déjà pour être clair, on va continuer Black Sad tant qu'on aura la force, tant qu'on pourra tenir les crayons ou taper sur les claviers, et dans la cadence qu'on pourra par rapport à nos autres projets et à nos forces, parce qu'on se fait un petit peu, on prend l'âge, mine de rien. Et je ne sais plus qu'est-ce que je disais.
Qu'on va continuer.
Qu'on s'est réjoui de
faire Black Sad encore. Donc on va... et puis, on a fait que cet album. Donc, même au niveau de développer l'univers de Black Sad, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des trous énormes dans son biographie, par exemple, qu'on peut explorer. Il y a pas mal de sujets intéressants de cette époque qu'on peut développer aussi. Donc, il y a mille choses à faire avec Black Sad. Et puis, on adore faire ça. Donc, on va continuer, ça, c'est sûr.
Justement, vous avez répondu à notre dernière question, vu l'heure. Je ne vais pas vous faire l'écueil de la suite. Quand est-ce que vous allez la sortir, bien sûr. Non, c'est voilà. Est-ce que vous vouliez...
Mais ça vous tente.
Ah, ça me tente beaucoup, parce que justement, il y a plein de pistes que vous alliez explorer. Après, ne serait-ce que... Enfin, j'ai déjà vu un peu sur Internet le fantasme de gens de voir John pendant la guerre, en fait, parce qu'on sait que c'est un vétéran. Ou même des spin-offs sur des personnages. Par exemple, que ce soit Black Sad, ça s'appelle Spinner of Tom 1, en fait, par exemple, je ne sais pas.
Dis donc, vous êtes vachement clairvoyant, vous.
Ah.
Je ne dirais plus rien.
Voilà, donc si c'est pour mettre un peu l'eau à la bouche aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, vous venez déjà de répondre en fait. Hein, vous avez déjà plein d'idées pour la suite et vous n'êtes toujours pas lassé du personnage, et nous non plus. Donc merci beaucoup de nous avoir offert cette super série et de nous offrir en fait aussi les prochains tomes qui sortiront dans un futur plus ou moins proche. Merci Juan Canales, merci Juan Roguarnido. Et merci à vous tous d'être venus ce soir pour écouter les deux auteurs de Black Sad. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort.
Merci.
Merci. Merci.